Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Renaud Broukis
et Martine Monti,
avec à la réalisation Nancy Zautier. Ce soir, notre thème est celui des visiteurs de prison. Les prisons sont des lieux de détention, de privation de liberté. Elles ont divers buts. Empêcher des individus de fuir avant de répondre de leurs actes, protéger la société de leurs actions, dans l'attente de leur procès ou après le jugement qui les a condamnés, et exercer une action punitive. Au-delà de cette privation de liberté, pour des raisons que nous évoquerons, notamment le manque de moyens et de volonté politique, les détenus subissent d'autres peines, liées à la surpopulation carcérale et à la promiscuité et à la violence, à la vie dans des locaux vétustes, au non-accès dans des délais raisonnables à certains soins, ils sont victimes de discrimination. De plus, ces conditions de détention empêchent, dans de nombreux cas, une réinsertion qui devrait être un but en cet enfermement et favorisent une replongée dans la délinquance à l'issue des peines. Toute société doit bien évidemment prendre soin des victimes et de leurs proches, mais elle doit aussi veiller à ce que la prison ne détruise pas ceux qui y rentrent. Que d'idées reçues sur les prisons, alors que dans les faits, la réalité de ce qu'il y a derrière ces murs est souvent ignorée. La prison est faite pour punir, et de toute façon, les personnes détenues sont trop bien traitées, entend-on souvent. Pourtant, ceux qui sont amenés à visiter une prison découvrent une réalité tout autre que celle qu'ils imaginaient. Une réalité telle qu'elle doit interpeller chaque citoyen. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qui veille au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, a le pouvoir d'inspecter tous les lieux de privation de liberté par les autorités. Prison, cellules de garde à vue, hôpitaux psychiatriques, centres de rétention. Cette instance édite un rapport annuel. En 2022, elle rappelle ses préconisations de mécanismes de régulation carcérale, afin qu'il n'y ait pas plus de détenus que de places disponibles face à la situation qui se détériore. Elle conclut « sans quoi cette inertie coupable perdurera ». Calcul à court terme, sans vision ni réalisme, répondant au populisme par des incantations ou des roulements de biceps. Et cela, la société tout entière n'a pas fini de le payer très cher. Parmi toutes ces personnes qui interviennent dans les prisons, personnel pénitentiaire et policier, mais aussi personnel médical, avocat, élu, aumônier, animateur d'atelier, nous avons souhaité rencontrer les visiteurs de prison, afin de mieux comprendre leur rôle et la réalité de ce qu'ils constatent au cours de leur visite en milieu carcéral. Pour aborder ce vaste sujet de la situation des prisons en France, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Laurent Brac, responsable de l'antenne départementale des visiteurs de prison des Alpes-Maritimes. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale pour écouter dans les prisons de Nantes de Norwenn Leroy.
Dans les prisons de Nantes, dans des... Un jour il lui demande, dans des 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 dans
Laurent Brac. Vous êtes responsable de l'antenne départementale donc des visiteurs de prison des Alpes-Maritimes. Avant de rentrer dans le détail de tout ce que vous faites et de ce que fait cette association, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter? Quel est votre cursus?
Alors, bonsoir d'abord. Je suis un ancien chef d'entreprise et j'ai fait toute une carrière de journaliste, d'éditeur, de conseil en communication avant de prendre ma retraite. Et j'ai décidé à la retraite de devenir visiteur de prison parce qu'en étant chef d'entreprise, j'ai été demandé par Pôle emploi pour faire des interviews et des entretiens d'embauche en détention. Auparavant, je suis issu d'une famille qui, historiquement, a toujours été dans l'aide, le social. Depuis ma grand-mère qui était goutte de lait en Tunisie, jusqu'à mon frère et moi-même qui avons fait de l'alphabétisation. J'ai fait de l'alphabétisation à Nanterre, dans les bidonvilles de Nanterre dans les années 70. Voilà. Et donc depuis ce temps-là, j'essaye de faire en sorte que dans notre famille, on puisse se livrer à une aide aux personnes qui en ont besoin. Ma compagne a été, et moi-même, nous avons été durant 10 ans aux Petits Frères des Pauvres, par exemple.
Mais merci pour cette présentation. Donc maintenant, aujourd'hui, vous êtes responsable régional de l'ANVP, Association Nationale des Visiteurs de Prison, sous main de justice. Et avant de rentrer justement dans la structure et l'organisation de cette association, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ANVP? Pourquoi elle a été instituée, quand et pour faire quoi?
Alors, c'est une très longue et très vieille histoire, puisque l'ANVP, c'est le résultat d'une action entreprise par des personnes cultuelles à la fin du 19e siècle. Donc c'est la Fondation Saint-Vincent de Paul qui est intervenue plusieurs fois en détention et qui a donné lieu en 1932 à la création de l'ANVP, l'Association Nationale des Visiteurs de Prison, qui a été durant très très longtemps une organisation, comme beaucoup d'organisations de bienfaisance, cultuelle. À une certaine époque, on refusait même les protestants, pour vous dire, ce qui est assez amusant. Par contre, à partir de 1951, l'association est devenue entièrement
non cultuelle,
voilà. Et depuis, cette association a passé des accords, ce qu'on appelle des accords avec l'administration pénitentiaire, qui sont des accords qui ont une durée de 3 ans ou 4 ans et qui permettent à l'association d'intervenir en détention.
Alors, on dit que c'est une association sous main de justice. Est-ce que vous pouvez préciser ce terme? Qu'est-ce que ça recoupe?
Voilà. Pourquoi on a changé en 2022, nous avons changé de nom à notre congrès d'ailleurs de Marseille, parce que auparavant nous étions ANVP, Association Nationale des Visiteurs de Prison, et nous avons changé en Association Nationale des Visiteurs de Personne sous main de justice. Pourquoi? Parce que nous sommes ouverts au milieu ouvert, c'est-à-dire au suivi de personnes qui sont sous main de justice en dehors de la prison. Il y en a à peu près 190 000 en France. Donc c'est une population assez importante.
À peu près deux fois plus de personnes à l'extérieur qu'à l'intérieur des détentions.
Plus de deux fois, puisqu'il y a en gros 74 000 personnes à l'heure actuelle incarcérées.
D'accord. Et donc votre association accompagne ces deux types de populations.
Voilà, tout à fait.
Très bien. Alors justement, venons-en à la structure et à l'organisation de cette association. Comment fonctionne-t-elle? Comment est-elle structurée?
Alors c'est une association qui décalque très exactement l'organisation de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire est à 9 régions en France, et nous avons 9 régions, plus une région pour les Outre-mer, Guyane, et La Réunion, etc. Et nous avons au niveau de chaque région, donc une délégation régionale. Par exemple, moi je suis délégué interrégional PACA Corse, hein, qui couvre toute la région, d'une partie de la région du sud de la France. Et nous avons la même structure dans chaque région. Je suis aidé par des trésoriers, des collecteurs régionaux, des responsables communication, qui sont des bénévoles comme moi, mais qui sont non pas sur Nice ou sur Grasse, mais qui sont disséminés sur toute la région. Au niveau national, nous avons un conseil d'administration. J'ai été pendant plus de 9 ans au conseil d'administration avant d'arrêter parce que j'avais une charge de travail un peu trop lourde. Et ce conseil d'administration se réunit en gros tous les 2 ou 3 mois sur Paris, et c'est lui qui règle toutes les questions de notre association, comme dans, enfin, qui a le pouvoir, avec un bureau, un président, un trésorier, un secrétaire général, etc.
Et donc l'association regroupe combien de visiteurs en France et en PACA ?
Alors, en PACA, on est un tout petit peu plus de 100, hein, 116, au dernier chiffre. Hein. Au niveau national, nous sommes un peu moins de 1200 visiteurs de prison, et nous sommes 1500 adhérents, puisque on peut être adhérent à notre association sans être visiteur de prison.
Donc vous travaillez effectivement sous main de la justice. J'imagine donc que pour être visiteur de prison, il faut avoir un agrément.
Alors cet agrément, il est très difficile à obtenir. Alors il n'est pas difficile à obtenir au niveau des documents à fournir, mais c'est un petit peu la lenteur de l'administration pénitentiaire qui fait que quand on dépose une demande pour devenir visiteur de prison, on n'est souvent pas visiteur avant 6 mois ou 8 mois. Pourquoi ? Parce que dans la directive réglementaire, il est indiqué qu'il doit y avoir une enquête de la police ou de la gendarmerie ou de la DGSI sur nous-mêmes. Et cette demande est transmise par les directions régionales aux préfectures. Mais les préfectures, la plupart du temps, bon, c'est pas leur priorité. Et donc, mais tant qu'ils ne répondent pas, puisque c'est la loi, hein, c'est le règlement, tant qu'ils ne répondent pas, eh bien, on n'a pas notre agrément. Alors aujourd'hui, on a réussi à avoir de la part de l'administration pénitentiaire, et là, ils ont fait un gros, très gros effort, c'est d'avoir des autorisations provisoires. C'est-à-dire qu'on a des autorisations provisoires de 6 mois qui peuvent être renouvelées une fois. Ce qui fait que les gens peuvent rentrer plus facilement en prison aujourd'hui.
Les agréments sont donnés pour 2 à 4 ans.
Deux ans.
Renouvelables.
Tous les deux ans, il faut le renouveler. Et c'est un agrément qu'on peut perdre aussi assez facilement.
Accord à côté sûr.
Donc, pour avoir cet agrément, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ne pas avoir fait ?
Alors, d'une part, il faut être majeur, hein, ça c'est une qualité obligatoire. Il ne faut pas avoir fait de la prison. Hein, ça, c'est aussi une deuxième qualité, ne jamais avoir été condamné au pénal. Ceci dit, certaines personnes qui ont été condamnées au pénal, mais qui ont fait des études, des sociologies, etc., peuvent devenir aussi visiteurs de prison, mais c'est assez exceptionnel. Hein. Par contre, donc il y a une demande qui est faite avec chaque fois qu'on a fait ce type de demande, c'est-à-dire un justificatif de domicile, carte d'identité, etc., etc. Et cette enquête de la DGSI ou de la gendarmerie sur votre personne. C'est un entretien qui se passe assez facilement. La plupart du temps, le gendarme ou le policier que nous rencontrons s'étonne que nous voulions devenir ou entrer en prison. Mais à part cela, c'est toujours il cherche un petit peu à savoir les motivations que l'on peut avoir pour entrer en prison. Et si vous voulez, nous, très souvent, et par exemple dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, ce qu'on appelle la direction pénitentiaire d'insertion et de probation nous demande notre avis. Hein. Donc ce n'est qu'un avis que nous donnons, mais nous recevons la plupart du temps les candidats avant, je les reçois. Et c'est vrai que certains candidats qui n'ont pas le bon profil, hein, on est souvent deux à juger, nous ne pouvons pas le recommander. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir une personne qui disait « Oui, je suis contre la peine de mort, sauf pour les pédophiles ». Voilà, donc je veux dire, on ne peut pas recommander ce genre de personne parce que nous ne choisissons pas en détention, on le verra peut-être un peu plus tard, nous ne choisissons pas les personnes que nous visitons.
Alors justement, on y reviendra effectivement, ce qui veut dire que toute personne qui a envie de devenir visiteur ou visitrice, hein, visiteuse de prison, en général vous contacte d'abord et c'est avec votre aval qu'ils entrent en contact avec l'administration pénitentiaire, judiciaire, pour avoir cet agrément.
Tout à fait. On a un process de recrutement avec, on leur fournit notre charte, le code déontologique, la loi, les règlements, etc., qui leur permettent de voir. Et puis, on a un entretien où on leur dit, toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et tous les bienfaits aussi qu'ils peuvent en tirer, parce que on en tire beaucoup de choses aussi, également de positifs.
J'imagine. Ensuite, une fois que cet agrément est obtenu, il y a une formation, une sensibilisation particulière.
Alors, le problème dans notre association et dans beaucoup d'associations, il est très difficile d'imposer une formation obligatoire. Hein. Par contre, nous avons trois ou quatre formations que nous recommandons très très fortement, et la plupart du temps les gens acceptent, c'est l'écoute accompagnement, c'est-à-dire que sur deux jours, on fait une formation qui est très importante, qui s'apparente un peu à ce que font les gens sur SOS Amitié. Nous avons une autre formation qui s'appelle Environnement du visiteur, qui permet aux visiteurs de mieux connaître l'environnement dans lequel ils vont être, et puis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire surtout.
Que faut-il faire de préférence et ne pas faire?
Beaucoup de choses.
Alors, les choses bon, principales.
Des phrases très rapides, c'est rien ne sort, rien ne rentre.
D'accord. Voilà,
ça, c'est obligatoire. Dans notre code de déontologie, on a un certain nombre de prescriptions qui sont du type on ne peut pas rencontrer la famille, on ne peut pas avoir un contact à l'extérieur avec des gens qui sont incriminés. Des personnes qui sont en lien avec les personnes incriminées, sauf avec l'accord du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc en fait, la règle générale dans les formations que j'anime, c'est toujours de dire, vous pouvez tout faire si vous avez l'autorisation. Voilà. Donc on peut apporter des journaux, on peut apporter des livres, si on a l'autorisation. Mais même un timbre... On ne peut pas donner un timbre à une personne que nous visitons.
Donc chaque fois qu'on va visiter une personne, il faut présenter à l'administration pénitentiaire exactement ce que l'on apporte,
oui.
Avoir leur autorisation. Et
tout à fait.
Ce qui a du sens d'une manière générale.
C'est un milieu qui est très particulier. Je veux dire, c'est un milieu, quand on dit privation de liberté, c'est important. Donc il y a le milieu aussi carcéral, c'est-à-dire c'est une prison. Avec un certain nombre d'obligations qui sont liées à la vie en détention et qui sont très rigoureuses. Et donc, nous, on doit s'y plier absolument.
Alors, j'aimerais maintenant en venir un peu au contexte dans lequel vivent les prisonniers et dans lequel les visiteurs de prison interviennent. Martine le rappelait tout à l'heure, au 1er septembre dernier, il y avait à peu près 73 700 personnes qui étaient emprisonnées. Bon, donc on ne va pas rentrer, en tout cas maintenant, dans le détail de ce qu'est la vie en prison ou de ce que sont les conditions des détentions. Ceci étant, je recommande à tous les auditeurs qui sont intéressés de lire la bande dessinée intitulée « Prison » de Rinaudot, Royan et d'Orange, qui a été éditée par les éditions La Boîte à Bulles, avec le soutien de la Ligue des Droits de l'Homme. Très belle BD qui présente très très bien le milieu carcéral. Et le constat justement qui en ressort, c'est que un grand nombre de ces personnes qui sont incarcérées se sentent très très seules, d'une part. Et le second constat, c'est que la prison est un lieu d'une très grande violence. Est-ce que vous confirmez ce constat ?
Alors, je confirme tout à fait ce constat. Des 74 300 et quelques qui sont actuellement en détention. Le problème de la prison, c'est que vous êtes en prison pour des faits qui sont soit des délits, soit des crimes. Vous êtes en prison parce que vous avez une bande qui s'est créée, qui fait la loi dans la prison. Donc certaines personnes, et en particulier toutes les personnes que l'on dit AICS, c'est-à-dire auteurs d'infractions à caractère sexuel, sont des gens, les pointeurs, comme on les appelle, sont des gens bannis en détention. Ce sont des gens qui, s'ils se retrouvent dans une cour ou dans un couloir où il n'y a pas de caméra de surveillance, vont se faire défoncer. Il faut le savoir.
Excusez-moi, mais comment est-ce qu'ils sont identifiés ? C'est-à-dire que chaque prisonnier sait quelles sont les raisons pour lesquelles les autres ont été emprisonnés ?
Alors parfois, il y a des personnes qui rentrent et qui disent tout bêtement ce pourquoi ils sont rentrés. Il y a des fuites qui arrivent. La plupart de ces gens-là sont mis dans des coursives particulières par l'administration pénitentiaire. Donc quand on sait que vous êtes du C3 ou du C4, on sait que vous avez fait un certain nombre de crimes et qui peuvent être des féminicides ou des choses comme ça aussi, tout à fait. Mais ils sont exclus de la société, ces gens qui sont véritablement exclus. Après, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, les très jeunes, la plupart du temps, n'ont pas besoin de visiteurs de prison. Il y en a quelques-uns qui le demandent, mais c'est souvent les personnes âgées, parce que quand on arrive à 40, 50 ans, 60 ans et plus, que l'on a fait un délit grave ou un crime, très souvent, pas toujours, mais la famille a rejeté en partie ces personnes. Donc ces personnes se retrouvent seules. Si en plus elles ne peuvent pas sortir en cours de promenade, c'est des gens qui vont rester 24 heures sur 24, enfermés dans 9 mètres carrés. Donc ce sont des gens qui, quand on les reçoit, on est un petit peu le bol d'air, là, comme j'ai l'habitude de dire, on est la petite fenêtre ouverte sur l'extérieur, et ça leur permet de survivre à cet environnement.
Donc ce sont elles qui demandent à avoir la visite de visiteurs.
Voilà, alors ce sont elles, et puis ça peut être aussi l'administration pénitentiaire qui nous demande, dans mon cas personnel en particulier, quand je visite un certain nombre de personnes dans ce qu'on appelle les quartiers d'isolement, qui porte bien son nom, c'est l'administration pénitentiaire qui m'a demandé d'aller les voir parce que c'est des gens qui, alors, là, ne voient personne à part deux fois par jour le surveillant qui leur apporte la gamelle.
Et donc, dans ce contexte, quel est le rôle alors du visiteur de prison ?
L'écoute, on blague, on raconte des histoires, je les fais parler sur leur famille, je les fais parler sur leur pays quand ils sont étrangers, ou leur ville quand ils viennent d'une autre ville. J'essaye de les intéresser. J'ai des gens qui sont dans des situations très graves et très difficiles, des personnes, et systématiquement, je vais essayer de les faire sortir de ce carcan qui les entoure, pour essayer de leur donner un petit peu une image autre. Par exemple, j'ai un vieux monsieur aujourd'hui, en ce moment, je lui ai apporté les photos prises par Google Maps de la rue où il habitait. Et il était formidablement surpris. Et ça, vous voyez, j'avais un jeune Algérien qui, je lui ai apporté une carte de l'Algérie récemment, et on a parlé des différents villages qui entouraient la ville où il était né, etc., où il était allé. Bon, c'est comme ça, on fait parler les gens. Et puis il y a certaines personnes où, un petit peu comme aujourd'hui, je parle beaucoup, surtout au début, hein, les premières fois. Et puis la personne dit oui. Bon, elles sont un petit peu coincées. Puis au bout d'un moment, ça se décoince, et on arrive à avoir des relations quand même très très fortes avec nos personnes visitées.
On pourra rentrer effectivement un peu plus dans les détails de ce que vous vivez et partagez en deuxième partie. De manière générale, lorsque l'on arrive en tant que visiteur de prison, est-ce que c'est le visiteur qui choisit ses prisonniers ?
Déjà, on parle pas trop de prisonniers, hein.
Oui, on parle de personnes détenues.
Non, c'est comme on ne parle pas de gardiens, mais on parle de surveillants. Hein, les gardiens, c'est fait pour les animaux, les surveillants, c'est fait pour la prison. Donc, c'est les personnes qu'on nous les envoie. Hein, c'est pas nous qui choisissons. Hein, l'administration pénitentiaire va déterminer qu'une personne, qui a un peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience, on va lui donner une personne que l'on sait difficile, mais systématiquement, sinon, c'est le premier arrivé, le premier servi.
D'accord. Et vous ne savez pas les raisons pour lesquelles ces personnes ont été incarcérées.
Alors, encore une fois, sauf exception, mais on ne sait jamais les raisons pour lesquelles on nous donne cette personne. Par contre, moi, depuis 2012, depuis que je suis visiteur de prison, j'ai eu une seule personne qui ne m'a pas dit ce qu'il avait fait. Les gens nous disent systématiquement.
Se confient à vous, voilà.
Parce qu'il y a une confiance qui est très importante.
Il n'y a pas que les visiteurs de prison, effectivement, qui rentrent dans les centres de détention. Mmh. Vous avez également des aumôniers, des professionnels de la santé, des services sociaux. Quelles sont les relations que vous avez justement avec ces autres interlocuteurs ?
Alors, on a des relations déjà un petit peu avec les enseignants. Avec l'école, puisqu'il y a l'école. On a des relations avec des gens qui s'occupent, par exemple Auxilia, qui est une association qui donne des cours, enfin par correspondance en détention. On a des liens avec la CIMAD. Ma compagne est visiteuse de prison, mais aussi CIMAD en détention. On a très peu de contacts avec le personnel médical. Très peu de contacts. On a bien entendu des contacts avec les responsables de l'administration pénitentiaire. Et on a des contacts très importants avec ce qu'on appelle les CEPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, parce que c'est eux qui suivent les personnes détenues. Et quand on a un problème ou quand on a une question sur cette personne, c'est eux qui nous demandent d'intervenir, ou nous, on leur pose le problème qui se pose à la personne.
Et ça de façon locale. Et au niveau national, vous avez un certain nombre d'organismes qui se penchent sur les conditions de vie dans les prisons, dans l'introduction que Martine faisait tout à l'heure. Oui. Dominique Simoneau. Certain, vous avez l'Observatoire international des prisons, pardon. Vous avez les défenseurs des droits, donc justement, vous travaillez au niveau national avec alors, ces organisations-là.
Avec le CGLPL, avec Dominique Simoneau, oui, au congrès de Marseille que j'avais organisé, j'ai invité Dominique Simoneau comme personnalité. Hein, qui est venu se présenter. Nous confions aux défenseurs des droits de temps en temps des problèmes, c'est-à-dire que bon, moi personnellement je suis aussi écrivain public, donc j'adresse des lettres à toutes ces personnes quand suivant les demandes qui me sont faites.
D'accord, écrivain public, c'est-à-dire que vous aidez les détenus à écrire ou oui. Vous écrivez pour eux de façon à faire remonter des choses.
J'écris pour eux. Enfin, je les reçois en tête à tête dans une salle avec un ordinateur et une imprimante. Je tape la lettre qu'ils me demandent, une lettre à un juge, une lettre. J'ai même eu, enfin, on aura peut-être une lettre d'amour un jour à écrire. J'écris une lettre, par exemple, en ce moment, un homme qui a commis un féminicide voulait écrire à ses enfants. Et donc j'ai écrit cette lettre. Bon, il m'a dicté quelques éléments, mais il m'a dit faites comme si c'était vos enfants. Et donc j'ai écrit la lettre comme si c'était mes enfants, comme si j'étais. C'est ça l'empathie, si vous voulez, de se mettre un petit peu à la place de la personne pour arriver à dire ce qui est au mieux. Bon, ceci dit, c'est très rare. La plupart du temps, c'est le juge d'instruction, c'est le procureur de la République, c'est le juge aux affaires familiales. Enfin, tous les éléments qui tournent autour de la prison avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire ou qui sont pour beaucoup illettrées.
Alors, pour qu'on comprenne bien, pour les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, comment se déroule une visite en fait lorsqu'on rend visite à personne détenue.
On rentre en prison, je veux dire, sans téléphone portable, sans argent, hein, puisque bon, l'argent est interdit en détention. On passe tous les sas, comme toute personne, hein, tout le personnel de la prison passe dans des sas, avec des tunnels pour les éventuelles affaires que l'on apporte avec soi. On va, en tant que visiteur, on va au parloir avocat. On reçoit les personnes au parloir avocat. Dans toutes les prisons, vous avez le parloir famille d'un côté, le parloir avocat de l'autre. Et donc, on reçoit nos personnes détenues, nos visités. Enfin, nos personnes, les personnes que nous visitons, parce que nos visités, c'est un peu trop nos. Les personnes que nous visitons au parloir avocat, dans une petite pièce qui doit faire 3 mètres carrés. Et en toute confidentialité, c'est-à-dire que il y a pas de micro, il y a pas de sonorisation comme la police hein, dans ces salles. Nous les recevons. Alors c'est suivant. Par exemple, quand on a 5 personnes à voir, comme moi j'ai souvent, on va les recevoir 20, 25, 30 minutes. Quand on a moins, c'est souvent les visiteurs visitent la durée de l'entretien dure à peu près une heure.
Hein? D'accord. Donc, durant une heure. On va rentrer, on va continuer dans quelques instants à poursuivre ce chemin. Mais nous allons prendre maintenant le temps d'une pause musicale pour écouter une chanson de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Et vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi cette chanson.
Philadelphia. night is falling, lying awake. Feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
Poursuivons notre émission sur le thème ce soir des visiteurs des prisons en France, en compagnie de Jean-Laurent Bras, qui est responsable de l'antenne départementale des visiteurs de prisons des Alpes-Maritimes. Nous venons d'écouter Street of Philadelphia. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Springsteen, je l'ai suivi depuis toute ma jeunesse, il a suivi toute ma vie professionnelle, j'ai toujours adoré, je l'ai vu en concert aux États-Unis, en France, etc. Et donc c'est un petit clin d'œil que je me fais personnellement. Et puis Streets of Philadelphia, c'est quand même un morceau qui traite aussi de la pauvreté. Et on sait que la pauvreté est la première cause de l'envoi en prison des personnes.
Nous avions évoqué effectivement votre entrée en prison avec les SAS, avec l'arrivée au parloir. Ensuite, vous rencontrez le détenu ou la détenue, puisqu'il y a aussi des femmes. Juste, et on voulait savoir comment ça se passait en fait, créer un climat de confiance, un lien d'empathie. Comment ça se provoque ?
Alors, ce climat de confiance dont vous parlez, il se crée petit à petit, et il se crée par l'écoute de l'autre, par une forme, enfin, par exemple, quand on s'assoit en face de la personne, on a une attitude ouverte. On se met jamais, par exemple, en arrière dans sa chaise avec les bras croisés. C'est des petits trucs, mais ce qui fait qu'on essaye d'être en liaison avec la personne, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la personne s'ouvre à vous, on peut discuter de tout. Il y a aussi, et très souvent, il y a des pleurs. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais vous avez des personnes qui sont en pleine capacité physique, etc., balèzes et tout ce qu'on voudra, et qui tout d'un coup craquent devant vous.
C'est l'émotion, c'est laisser passer ses émotions.
C'est laisser passer ses émotions, et puis nous, par exemple, alors quand c'est une femme qui reçoit quelqu'un, c'est difficile, mais moi, il m'est arrivé de prendre assez souvent même les deux mains de la personne et de les serrer, et puis par exemple le silence est un moment très important dans ces rencontres, parce que la personne réfléchit sur elle-même et moi j'attends, j'essaye pas de le relancer systématiquement. Donc il y a un certain nombre de techniques comme ça, de conversationnelles, qui nous permettent de rentrer. Et puis surtout, on est, je sais pas comment vous dire, mais on est toujours souriant, on est toujours à l'écoute, on essaye toujours de faire en sorte que la personne se sente bien avec nous. Hein. Et moi, toutes les personnes que j'ai systématiquement me disent, je vous racontais une petite anecdote, toute bête mais sympathique. J'ai quelqu'un qui est très croyant, chrétien, etc., qui va au culte et tout, qui a reçu une mauvaise nouvelle, et je lui ai dit très simplement, demain, on était le vendredi, demain, vous verrez avec votre bon Dieu, il va vous remettre, vous le prierez, et il va vous remettre d'aplomb. Et la personne me répond, mais pour l'instant, le bon Dieu de substitution, c'est vous.
Et justement, ça, c'est quand ça se passe bien. Est-ce que vous avez des détenus avec lesquels le courant ne passe pas ? Et dans ce cas-là, on se dit, je le lâche et il sera reçu par quelqu'un d'autre.
C'est un droit, aussi bien de notre part que de la part de la personne visitée, de refuser la discussion. Alors, très souvent, ce qui arrive, c'est que des gens demandent un visiteur de prison parce qu'ils pensent que grâce à ce visiteur, ils vont pouvoir avoir quelques bénéfices, hein, et ils s'aperçoivent immédiatement qu'ils vont pas pouvoir avoir le paquet de cigarettes qu'ils désirent, et donc ils arrêtent. Hein. Mais nous aussi, alors, ça peut arriver, je sais qu'il y a eu une femme, une visiteuse de prison, qui un jour s'est sentie très mal à l'aise avec une personne, il y a 3-4 ans ici, et qui m'a dit, non, moi je peux plus le recevoir. Mais c'est très très rare.
Et comme ça se passe dans des hôpitaux, dans des structures où les gens sont amenés à être confrontés à des complications ou des personnages en souffrance, est-ce que vous avez des réunions entre vous pour échanger, non pas sur la confidentialité de ce qui se dit, mais sur vos ressentis et sur des recherches de méthodes peut-être pour rapprocher des personnes?
C'est ce qu'on appelle les groupes de parole. Mmh. Donc, où quand une personne a une grosse difficulté, quand elle se sent mal avec son visiteur, ou qu'elle a une question qui lui est posée et auquel elle ne sait pas répondre, elle peut l'exprimer et ses collègues, ses camarades lui l'aident de ce côté-là.
Vous avez évoqué, lorsqu'on a préparé cette émission, aussi le soutien aux familles. Mmh. Donc j'aimerais que vous puissiez expliquer un petit peu, parce qu'on a bien compris que vous n'aviez pas le droit de faire passer des infos du détenu, oui, à la famille. Qu'est-ce que c'est le soutien aux familles? C'est celles qui viennent en prison, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'outils spécifiques ou...
Alors c'est parce que bon, c'est pas tous les visiteurs de France, hein, mais personnellement sur Grasse, plus particulièrement, nous sommes plusieurs visiteurs de prison, être aussi à l'accueil des familles. Et donc, en conséquence, l'accueil des familles, c'est très important parce que les familles, c'est souvent la double peine. Hein, ils ont le gars en prison et les enfants sur le dos, toute la charge éducative, toute la charge financière, etc. Il y a plus de sous qui rentrent. Et donc, en conséquence, ces familles ont besoin d'un soutien. Elles ont besoin d'un soutien pour eux-mêmes les faire une demande de visite, etc., etc.
Mais ça se passe pas à la prison.
Ça se passe devant la prison, à l'entrée de la prison. Nous avons un petit bungalow dans lequel on reçoit les familles.
Avant qu'elles entrent voir leur détenu.
Qu'elles entrent dans les prisons.
Et vous arrivez effectivement à les aider dans cette... Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les familles qui viennent voir.
Quasiment que des femmes.
Ce sont souvent les mères, les sœurs, les femmes qui assurent le soutien. Et donc vous arrivez à les orienter vers d'autres structures, genre assistante sociale, ou c'est vraiment
Oui, c'est une aide ponctuelle. C'est là aussi, c'est de l'écoute, de l'empathie, c'est de leur donner un café avant qu'elles rentrent, c'est de discuter avec elles sur qu'est-ce que leur gars peut faire, comment il peut s'en sortir, etc., etc. Donc on essaye de les aider. On essaye de les aider aussi sur le plan législatif, parce qu'elles ne connaissent pas toujours tous leurs droits, et donc on leur donne des éléments de réflexion ou d'aide.
Donc ça, effectivement, c'est indépendant des visites
en prison.
C'est au fil de l'eau, vous les rencontrez, voilà. Et vous pouvez leur apporter une aide. Alors j'aimerais... Si vous avez une anecdote à nous raconter ou une belle idée de rencontre pour concrétiser encore mieux ce que vous faites dans ces prisons.
Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai une personne que j'avais suivie, c'était un jeune, il avait 23 ou 24 ans, que j'ai suivi durant 2 ans, et qui, un jour, je rentre en prison dans la cour d'honneur par laquelle on arrive, et je vois cette personne avec 2 sacs. Qui sortait de prison. Et il abandonne ses 2 sacs et il se jette dans mes bras et il me dit « C'est grâce à vous que je sors aujourd'hui ». Alors c'était complètement faux, je veux dire, c'est pas moi qui avais décidé de le faire sortir. Mais le fait de l'avoir soutenu durant les 2 ou 3 ans qu'il avait passé en prison lui avait permis d'être suffisamment correct en prison pour avoir une peine alternative ou une sortie, comme on appelle...
Anticipée,
voilà.
Justement, par rapport aux peines alternatives, sans qu'on en fasse la liste, il y a effectivement, nous l'avons évoqué tout à l'heure, un certain nombre de personnes détenues en prison, maison d'arrêt, etc., et une partie qui purge des peines à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer quelles sont essentiellement ces peines ?
Et ça peut être les travaux d'intérêt, les tiges, hein, les travaux d'intérêt général. Ça peut être ce qu'on appelle des stages. Ça peut être ce qu'on appelle des peines probatoires, l'obligation par exemple de suivre des traitements, l'obligation de se rendre des contrôles judiciaires, le contrôle judiciaire. Le juge, alors si vous voulez, pour faire une distinction, c'est que vous avez des personnes qui sont en détention et qui vont sortir en libération conditionnelle. Celles-là, elles sont toujours ce qu'on appelle sous main de justice. Hein, il y a en gros, si vous voulez, avec un numéro d'écrou, hein, qui subsiste. Et puis vous avez sous main de justice toutes les personnes dont on a parlé tout à l'heure, en gros 170 à 180 000 personnes suivant les années, qui elles ont fait l'objet d'une peine alternative à la prison, qui a été décidée soit par le procureur pour quelques petites peines, mais la plupart du temps par le juge.
Donc vous les suivez également ou ça dépend des régions,
ça dépend du contexte. Ça dépend des régions. C'est ce qu'on appelle le milieu ouvert. C'est une porte qu'on a ouverte sur l'extérieur, mais qui est très difficile à mettre en place. D'une part parce que l'administration pénitentiaire et dans certains pensent que bon ça sert à rien. Hein, et puis il faut des moyens physiques que nous n'avons pas partout en France. Mais dans certains coins, par exemple sur Avignon, dans notre région, ça marche très très bien.
Nous y reviendrons quand on évoquera les préconisations, mais c'est vrai que c'est une des solutions à la surpopulation carcérale pour les petits délits. Et donc, nous allons effectivement plus évoquer ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes, qui est votre secteur d'activité. Et il faut savoir que nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, la situation des prisons en France est reconnue comme alarmante et que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant, en raison justement des conditions de détention liées essentiellement à la surpopulation carcérale. Qu'en est-il dans les Alpes-Maritimes? Parce que je crois que le quartier des femmes de la prison de Nice a été effectivement pointé dans cet arrêt.
Alors, dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2020, il y avait une dizaine ou une douzaine de prisons en France, et en particulier dans les territoires d'outre-mer, qui ont été condamnés pour insalubrité des prisons. Il faut savoir que à Nice, donc sur le quartier des femmes, où il y a une trentaine de places à cette époque-là, et ce pourquoi aussi la France a été condamnée, il y avait 70 personnes détenues.
Donc ça veut dire combien de personnes dans une cellule? 3 pour une cellule de 2?
Voilà, c'est 3-4 même. C'est le problème parce que il y a certaines personnes qui sont dangereuses par exemple qu'on ne va pas mettre avec d'autres. Donc dans toutes les prisons de France, vous avez souvent la plupart des prisons, des maisons d'arrêt, vous êtes à 2 dans une cellule. En ce moment, il y a je crois 1400 matelas au sol en France. Hein, c'est-à-dire que dans une cellule pour une personne, vous avez 3 personnes qui y vivent, dont une personne qui couche par terre sur un matelas. L'administration pénitentiaire n'y peut rien, elle est obligée de les recevoir.
Encore à côté sur.
Oui, parce qu'en fait, c'est la justice qui les
envoie.
C'est pas la juridiction, enfin, c'est la juridiction qui décide et pas l'administration pénitentiaire. Et donc, ça perdure encore à Nice ou... vieille prison,
alors,
Nice.
À Nice, alors voilà. Grasse est une prison relativement moderne, puisqu'elle date des années 1990, mais c'est pas les plus modernes.
Nous, population lambda, on appelle prison un petit peu tous ces établissements. Ce sont des maisons d'arrêt.
Nice et Grasse sont des maisons d'arrêt. Vous avez dans d'autres départements de la région et puis en France, vous avez ce qu'on appelle des centres de détention qui sont faits pour les peines, les restants de peines de 3 ans et 5 ans et plus.
Hein. Et ce qu'on appelle les centrales, c'est pour les longues peines.
Les centrales, il y en a 6 en France, dont Arles dans notre région. Vous avez Saint-Martin-de-Ré qui est assez connu, etc. Ou Clairvaux entre. Voilà. Donc ça, ce sont des centrales, c'est pour les gens particulièrement dangereux.
Où il y a les quartiers de haute sécurité.
Alors, les quartiers de haute sécurité n'existent plus.
Oui, enfin, voilà. Où il y avait.
Hein,
oui, d'accord. Voilà. Donc là, Grasse et Nice, ce sont des maisons d'arrêt.
Ce sont des maisons d'arrêt. Et donc, les maisons d'arrêt, où il y a en gros 30% de personnes en détention provisoire, ce qu'on appelle des prévenus, sont surpeuplées. Hein. La maison d'arrêt, les derniers chiffres que j'ai, la maison d'arrêt de Nice est à 144% de surpopulation, et la maison d'arrêt de Grasse est à 112%. En fait, très souvent, les gens qui sont incarcérés à Nice, quand il y a vraiment des trop-pleins et des problèmes, on les envoie sur Grasse.
Oui, c'est en 44, c'est un taux énorme. On estime en moyenne sur la France une surpopulation de 121%, mais c'est une moyenne. C'est déjà excessif.
Oui.
144, c'est effectivement énorme.
Ah, mais vous avez des prisons qui sont à 200%. Nîmes, dans notre région, Gradignan, à Bordeaux, sont au-delà des 200%.
Oui, donc à partir de là, effectivement, ce qu'on a évoqué, tout ce qui est réinsertion, travail des détenus, etc.,
faut pas y compter.
Devient impossible.
Impossible. Enfin, vous avez toujours des gens qui arrivent à s'en sortir, heureusement, parce que sinon, ça serait quand même trop, trop, trop grave. Mais par exemple, une prison comme celle de Nice, vous avez un effectif du personnel qui est constant. Donc, je veux dire, c'est pas parce que vous avez 40% de personnes détenues en plus qu'on augmente le niveau du personnel. Et le personnel, souvent, parce que c'est un personnel qui est très souvent en souffrance, hein, il faut aussi le dire, il y a beaucoup d'arrêts de travail, il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt maladie, etc. Je vous donne un exemple. En 2016, la prison de Grasse avait 850 détenus pour 567 places. Hein, donc là aussi, on était à 130%. Et le directeur à l'époque m'avait dit, il y a 142 postes fixes, hein, prévus, et ils étaient 96 avec 850. Vous voyez les gaps énormes qu'il y a de ce côté-là, et c'est très difficile après pour l'administration pénitentiaire de pouvoir surveiller les cours de promenade, de pouvoir surveiller les mouvements, etc., etc. Donc qui souffrent, c'est les personnes détenues, parce que ben on leur interdit un certain nombre de d'actes culturels ou médicaux, etc.
Et justement, quels sont vos rapports avec ce personnel des prisons? Vous les croisez, mais est-ce que vous parlez aussi, parce que je pense qu'il y a aussi un rapport humain, et je reconnais que c'est une profession qui est vraiment en détresse aussi. Oui. Et comment vous perçoivent-ils, et globalement, hein, est-ce que vous avez fait des rencontres là aussi qui étaient humainement très intéressantes?
Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que personnellement, j'ai d'excellents rapports, hein, aussi bien avec la direction de l'établissement et toutes les directions d'établissement que j'ai connues depuis que je suis visiteur sur Grasse ou sur Nice. Mais c'est vrai que, bon, monsieur, comme dans toute profession, il y a quelques brebis galeuses, mais elles sont minimes. En fait, la plupart du temps, je vois par exemple les surveillants qui sont au parloir famille ou au parloir avocat, prennent systématiquement en compte les problèmes des personnes qu'elles rencontrent. Quand je vais au QI ou au QD, c'est un environnement qui est très, alors là, plus que carcéral, parce que vraiment, on ne peut pas faire sortir une personne si on est seul, etc., etc. Et ces gens-là savent qu'on vient pour... J'avais lu un directeur d'établissement qui m'avait dit « Vous êtes un élément de la paix sociale. » Et je pense que c'est important, parce que les personnes qui sont détenues, très souvent, quand on leur... on leur dit « Non, non, tu vas pas là, tu fais pas ci, tu vas ça », se révolte, hein, ça commence à crier, ça hurle, ça se débat et autres. Et c'est vrai que nous, quand on est là, je peux raconter une autre anecdote, si vous le permettez. J'étais dans mon bureau d'écrivain public, et tout d'un coup, j'entends des cris dans le couloir. Il y avait une CPIP qui était là, qui avait dit à un gars, sortez, une conseillère pénitentiaire, qui faisait valser la personne qu'elle avait reçue parce qu'il était en colère, etc. Donc, il y avait un capitaine qui était là, qui accourt, qui dit qu'est-ce qui se passe, etc. Le gars se met à hurler. Et moi, j'étais juste derrière lui. Et je l'ai pris par l'épaule, et je lui ai dit, venez, on va discuter. Et il est ressorti, calme. Bon, je lui ai dit, écoute, ça sert à rien, etc. Et le capitaine m'a dit, mais comment vous avez fait? Et je lui ai dit simplement, je suis pas un homme en bleu. C'est tout. Donc, c'est ces petites choses et ces petits actes comme ça qui parfois arrivent. Bon, c'est exceptionnel, hein, cette situation.
Oui, en fait, ça met de l'huile dans des rouages qui sont très lourds, très très anxiogènes finalement, à la fois pour ceux qui sont enfermés et ceux qui doivent
s'en occuper. Surveillent.
Et justement, par rapport à cette situation qui nous paraît, nous, de l'extérieur, un petit peu insoluble, est-ce que votre association a des préconisations qui suivent sans doute celles du contrôleur général des lieux de détention? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que tous les prévenus soient dans ces maisons d'arrêt? Parce qu'on dit qu'il faut protéger la société, mais tous sont-ils en état de mettre en danger la société? Est-ce que pour ceux qui ne sont pas encore jugés et qui attendent parfois très longtemps, la prison est nécessaire?
C'est une vaste question. Donc on va parler après peut-être de la régulation carcérale, mais à l'heure actuelle, c'est la pression sociale de nos concitoyens qui est importante. Quand on lit dans les journaux, voilà, il faut les enfermer, c'est tous des salauds, etc., etc., les juges qui, s'il y a un problème, on va leur dire... Et comme on l'a, hein, très souvent, même les policiers désignent du doigt les juges en disant ils n'ont pas été assez sévères. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de manière très simple, hein, je crois que en 1960, le délai d'emprisonnement moyen, c'était de 5 à 6 mois. Aujourd'hui, il était de 8 ou 9 mois dans les années 70. Aujourd'hui, il est de 11 mois et demi, le délai moyen. Donc, je veux dire, la sévérité des juges, elle est là, elle existe. Hein, donc, on ne peut pas dire que les juges ne sont pas sévères. Mais pourquoi ils sont sévères? D'une part, parce qu'ils ont des instructions de leur ministre, mais aussi, il y a une pression sociale qui est très forte pour condamner les gens. Et quand il y a une comparution, ce qu'on appelle une comparution immédiate, eh bien la personne arrive entravée à la prison, au tribunal, et très souvent, la plupart du temps, il n'a pas les moyens de donner ses ressources, sa famille, des explications, etc. Et il est condamné. Et même quand on dit que jusqu'à 6 mois, normalement, on ne devrait pas rentrer en prison, le juge, s'il le motive, parce que c'est un récidiviste, etc., va quand même l'envoyer en prison. Et donc nos prisons sont surpeuplées. Et après, il y a tout ce qu'on appelle la détention provisoire. Alors, les criminels, c'est normal, hein, sont en détention provisoire. Mais les criminels sont souvent jugés après 3 ans ou 4 ans. Ce qui est inimaginable en Grande-Bretagne, ou comparable à la France, hein, au niveau du nombre de personnes en détention, on est jugé au bout d'une année.
C'est-à-dire que nous avons ici aussi en France le respect de la présomption d'innocence, et tant qu'il n'est pas jugé, normalement, il n'est pas coupable. Donc on enferme des gens qui, effectivement, certains ne seront pas condamnés aussi.
C'est très rare.
Le principe, principe de droit.
C'est un principe de droit, la présomption d'innocence, jusqu'au jugement, et même jusqu'au jugement, je dirais, en cour d'appel et en cassation, vous êtes présumé innocent. Ça n'existe pas dans les faits.
Et on est bien d'accord que dans la population, ce n'est pas ressenti comme ça. Et est-ce que vous avez d'autres commentaires, justement, par rapport à ce qu'on pourrait faire? Est-ce que la construction de nouvelles prisons est une solution?
Alors, la construction de nouvelles prisons est une solution pour vider les prisons insalubres, ça tout à fait d'accord. Mais on a, dans le plan, il y a eu le plan 30 000 dans les années 90, on les a remplis. Systématiquement, on a rempli les prisons. Et si on rajoute les 15 000 places qui sont prévues dans le plan jusqu'en 2027, on va les remplir. Ça va être systématique. Par contre, il y a un problème qui est majeur, qui est que le fait de la régulation carcérale, à l'heure actuelle, on l'a bien vu avec le Covid. On a vidé les prisons avec le Covid. Est-ce qu'il y a eu plus de délinquance? Non.
Vous pouvez préciser ce que vous appelez régulation carcérale?
La régulation carcérale, c'est de dire, quand on arrive à un certain seuil, ça peut être 100%, ça peut être même 110% dans une maison d'arrêt, parce qu'il n'y a que les maisons d'arrêt hein, qui peuvent aller, les autres, c'est une cellule, une personne. Quand on arrive à 100 ou 110%, eh bien la personne qui a la dernière peine, il a un mois ou un mois et demi à faire, on la libère pour faire entrer la nouvelle personne. C'est ça la régulation carcérale, c'est-à-dire permettre des libérations anticipées de personnes qui ont quelques semaines ou quelques mois à faire encore.
Ça, c'est sur décision du juge.
Non, il y a que la loi qui peut. D'abord, il faudrait qu'il y ait une loi hein, qui oblige. Et ensuite, après, ça sera sur décision du juge d'application des peines qui choisira la personne qu'il juge la mieux adaptée à sortir.
Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en place.
Ah non, c'est pas du tout mis en place. Non, non. C'est quelque chose qui est même réclamé par les directeurs d'établissement, le syndicat des directeurs d'établissement en France, le SNPN, je crois, qui réclame justement ce processus de régulation carcérale.
Écoutez, je vous remercie. Avant d'arriver à la conclusion de cette émission, nous allons écouter un extrait de rap de Star Academy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été créé ce morceau ?
Alors, le rap, c'est pas mon fort, mais la Star Academy, c'est une association qui s'est créée dans la région parisienne et qui intervient en prison pour faire de la musique en prison, enfin plus particulièrement du rap, écrire des textes avec les personnes détenues. Et le morceau que j'ai choisi, il s'appelle Arrivant. Et si vous écoutez bien, si vous avez une oreille très attentive, la personne qui déclame ce morceau décrit son arrivée en prison, c'est-à-dire il va décrire la fouille, il va décrire les bruits, il parle des cris qu'il entend, il parle de cet environnement qu'il reçoit, les personnes qui sont au greffe du tribunal, qui sont le médecin, etc. C'est l'histoire d'Arrivant.
Merci, ça va illustrer totalement le propos de cette émission.
Dépôt après 96 heures, je me retrouve à Fred. Le greffier m'écroule, je passe à la UFO, ça y est, je suis derrière les barreaux comme Joe et Avren. J'arrive aux arrivants, tête de taliban, spirit m'a dû faire perdre 5 ou 6 kilowatts. Ils ont tout remonté avec la totale, ils m'ont pété, enfin bref, voilà qui m'ont ouais. Faut que j'apprenne à survivre dans ce monde parallèle, avec une baguette, une gamelle pas halal. Elle aime téléphoner juste pour me faire kiffer, pour avoir la pression de passer un appel. Car à cet instant précis, pas moyen d'en passer un, y'a rien à faire. Ils m'ont bloqué l'accès à la cabine téléphonique parce qu'il reste des mecs en cavale dans mon affaire. À la fenêtre, oh là là, que ça cri-cri. Partout du brouhaha comme un clic-clic. perds du poil, là le temps passe, mais cri-cri. Les jours sont cri-cri, je suis trop écrit-cri. Une cellule insalubre, je suis outré sur les murs des toilettes, des doigts à des rappels. Je suis descendu dans la promenade ouest, que des zombies, on se croirait en plein port de la chapelle. Là faut qu'on se démerde, faut pas qu'on se lamente. Le soir du mal à m'endormir consciemment. Entre les hurlements des schizos et l'alarme d'intervention qui retentit constamment. Réveillant sur son aux alentours de 7h30 par des gros bruits. Celle de la serrure, la SS qui passe, qui demande un signe de vie. Puis là je réalise encore plus que je suis au fond du puits. Plus de force, j'arrive même pas à avoir la gaule. Prends un peu l'air au barreau, j'observe la tôle. La vue sur des lassos qui descendent, qui remontent comme les cafards sur les quatre murs de ma zone. Faire le parcours des arrivants impuissants. Je dois faire 15 jours dans ce bâtiment épuisant. Parce que je suis béton en pleine crise sanitaire. Faire vaccin test du Covid et salivaire. Je suis juste en train de passer mon plus à l'hiver. J'attends qu'on me talonne, je suis affamé et inquiété pour la daronne. Parce que là ça va faire un demi-mois. Qu'elle a plus du tout de nouvelles de moi. C'est le jour où je dois monter au bâtiment. J'ai surmonté cette épreuve comme un rageux néanmoins. J'y vais avec encore plus une tête de taliban facile, une quinzaine de kilos en moins.
Eh bien, nous terminons notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème des visiteurs de prison, en compagnie de Jean-Laurent Brac, qui est donc responsable de l'antenne départementale des visiteurs de prison des Alpes-Maritimes. Donc, je reviens vers vous, Jean-Laurent. Pour terminer cette émission, quel message ou quel appel vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs ?
Alors, le premier message, c'est que nos concitoyens soient conciliants par rapport aux gens qui sont en prison. Ça, c'est le premier message. Et de leur permettre de mieux comprendre ce qu'est la prison. Le second message, c'est que, bien sûr, nous avons besoin de personnes. Nous avons besoin de personnes doublement et pour l'accueil des familles. C'est en dehors de la prison, on rentre pas en prison, on peut démarrer très très rapidement. Et le second, c'est comme visiteur ou visiteuse de prison. Ça, c'est un engagement qui est plus fort, mais qui, je dois dire, vous apportera des satisfactions que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. On rentre dans un monde que l'on ne connaît pas, qui nous est totalement étranger, mais qui est d'une richesse extraordinaire.
Eh bien, ce sera la conclusion. Merci beaucoup, Jean-Laurent Brac. Et pour celles et ceux qui voudraient de nouveau avoir une idée de ce que les prisonniers vivent en prison, je vous rappelle le titre de la BD « Prison » de Rinaudot, Royan et d'Orange, édité par La Boîte à Bulles et soutenu par la LDH. Oui, un dernier mot.
Et je rajouterai notre site anvp.org pour prendre contact avec nous. anvp.org.
Eh bien, voilà qui est dit. Vous pouvez donc réécouter cette émission que vous pouvez télécharger sur le site d'Agora Côte d'Azur. Très bonne soirée à vous et à bientôt.